إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuons aujourd'hui l'explication du livre en langue française qui s'intitule من كنوز القرآن الكريم, parmi les trésors du Saint-Coran du Cheikh Al-Allama Abdel Mohsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui on s'est arrêté ou on va continuer au verset numéro 47 de Surat Al-Baqarah. Donc on est toujours dans Surat Al-Baqarah, Surat la vache, et aujourd'hui c'est le verset numéro 47 que le Cheikh va expliquer. Donc c'est le passage qu'il a choisi. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. Donc le sens du verset est le suivant: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples, à tous les peuples. يقول الشيخ المراد بالعالمين الذين فضل عليهم بنو إسرائيل هم عالم زمانهم. Dans un premier temps, pour comprendre bien le verset, c'est la première indication qui nous donne le shir, c'est que l'explication du terme al-alamin, on pourrait comprendre en fait tout le monde, c'est-à-dire que Bani Israël a été préféré par Allah Azza wa Jal sur tout le monde, que ce soit à n'importe quelle époque et dans n'importe quel endroit. C'est ce qu'on pourrait comprendre, parce que al-alamin, comme on l'avait déjà expliqué par rapport à Surat al-Fatiha, al-alamin, ça comprend le temps et ça comprend aussi l'endroit, le temps et l'endroit, al-makan wa zaman. Donc on pourrait comprendre du verset, simplement que ici, d'après bien sûr les tafsirs des savants, parmi l'explication des savants, eux ils nous disent, et ils vont s'appuyer bien sûr sur d'autres versets, ils vont nous dire en fait que la signification ici, ala al-alamin, comme il dit le shir, ala muzamanihim, c'est-à-dire les peuples ou les mondes de leur temps à eux, le temps où ils ont vécu. Donc cette préférence, elle est spécifique, et elle n'est pas générale, elle est spécifique donc à une période. Et donc cette période-là, c'est leur temps à eux, le temps où ils ont vécu. Yani les enfants d'Israël, Banu Israël. Et ensuite, il y a وَأُمَّةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمْ يَخَيْرُ الْأُمَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Ça c'est fait surat Ali Imran, le verset 110. Quelle est la traduction de ce verset? Vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait apparaître ou qui est apparu pour les hommes, pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez ce qui est mal, le blâmable, et vous croyez en Allah, et vous croyez en Allah. Le Cheikh Yaqul donc il nous a dit que d'après ce verset qui est surat Ali Imran verset 110, c'est une preuve que la communauté musulmane ou la communauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des communautés, d'après comme preuve ce verset du Coran. Donc elle est meilleure que Bani Israël, que les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ici on voit que la préférence qui a été faite par rapport à cette communauté, elle est perdurable, c'est-à-dire depuis qu'ils ont apparu jusqu'à la fin du monde, tout le temps. Enam, c'est donc quelque chose qui est supérieur à Bani Israël, aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont été préférés dans leur temps uniquement. Il nous donne aussi un autre verset le Cheikh pour appuyer cela, un autre verset du Coran. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ça c'est surat al-Baqara et c'est le verset 143. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, de juste wasata, c'est-à-dire sur le juste milieu, pour que vous soyez témoins aux gens, c'est-à-dire vous serez témoins le jour du jugement par rapport aux autres communautés. Donc la personne qui va être témoin par rapport aux autres communautés, Warfan, la communauté qui va être témoin par rapport aux autres communautés, c'est une communauté à qui il a été fait préférence. Et comme le messager sera témoin à vous, c'est-à-dire par rapport à vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera témoin également. Donc ce qui prouve la préférence qui a été faite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres hommes, par rapport à tous les hommes. Donc ça c'est encore une autre preuve. Deux versets nous rapportent le shirk pour nous prouver que la meilleure des communautés, qui est meilleure que cette communauté Bani Israël, c'est notre communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et yaqul al-shaykh wa khayru hadhihi al-ummah ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons du prophète. Les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul wa qad imtahinu as-sahabatu wa banu Israil bima yukhaf minhu wa yutma' fihi. C'est-à-dire qu'ils ont eu des épreuves. Les sahaba, les compagnons du prophète, ils ont eu des épreuves comme ont eu des épreuves Banu Israël, les enfants d'Israël. Par rapport à ce qui peut faire peur, par exemple des épreuves dans ce qui fait peur dans le mal, dans l'épreuve dure, et également Wayut Ma'ufi, c'est-à-dire des épreuves par rapport à une chose que l'on aurait aimé avoir accès à elle, à cette chose-là. Il nous dit le shir, فَصَبَرَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يَصْبِرْ بَنُوا إِسْرَائِيلِ. C'est-à-dire que devant l'épreuve, et il va nous apporter l'épreuve, le shir, par rapport à ce qui s'est passé du Coran, ce qui nous a été cité dans le Coran, il va nous prouver qu'en fait, الصحابة, ils ont patienté. Les compagnons, ils ont patienté devant ces épreuves-là, alors que les enfants d'Israël n'ont pas patienté. Et on va voir dans quoi. قال شيخنا شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. Donc maintenant il va venir avec une parole, on va maintenant passer, c'est-à-dire lorsqu'on va citer ce qu'on cite maintenant, ça va être la parole de Cheikh Mohamed Al-Amin, le Cheikh de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Mohamed Al-Amin رحمه الله. Et on verra en fait que cette parole là n'est pas prise de son fameux tafsir Abwa al-Bayan, mais d'un autre livre qu'il va citer à la fin. على كل حال يقول الشيخ ومما يدل على أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع. C'est-à-dire que le Cheikh donc va répéter maintenant. Il va dire que parmi les preuves qui prouvent que la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم, et en l'occurrence ici qui les promis, c'est-à-dire les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ont été meilleurs que qui, que les enfants d'Israël, ceux qu'ils ont bien sûr suivi, ceux qui ont été derrière qui? Moïse alayhi salam, Moussa. Il va donc nous dire, il va nous rappeler deux choses. Dans un premier temps, bil khouf, c'est-à-dire ils ont eu l'épreuve de al khouf, de la peur. La peur, en fait, cette peur-là, également, Bani Israël ou Banu Israël ont été éprouvés par elle. Comme les compagnons ont été prouvés par elle, par la peur. Bikhawfin. Pour ce qui est des compagnons, il faut dire Ptala Allahu Jalla wa ala bi ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fawa annahum lamma ghazu ghazwat Badr, wa sahala Abu Sufyan bil Ayr, wa stanfara lahum al Nafir, wa jaahum al khabaru bi anna al Ayr salimat, wa anna al Jaysh aqbala ilayhim, akhbarahum al Nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhalik. Vous savez que les préliminaires de la bataille de Badr, au départ, c'était pas prévu en fait, cette bataille, de manière directe. C'est-à-dire qu'ils avaient eu l'intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, de prendre quoi? De prendre en fait l'Ayr. L'Ayr en fait c'est Al-Qafila. L'Ayr ça veut dire la caravane tout entière, c'est-à-dire la marchandise qu'avait bien sûr Quraysh et à leur tête Abu Sufyan, c'est lui qui était à la tête du convoi, et donc qui comprenait bien sûr des chameaux, qui comprenait de la marchandise, etc. Et comme vous savez, ils avaient deux grands voyages, Quraysh, un voyage durant l'été et un voyage durant l'hiver. Salimat wa anna al-jaysh aqbala ilayhim. Bien sûr, elle a pu s'enfuir, c'est-à-dire qu'Abu Sufyan a réussi à s'enfuir des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sahala, c'est-à-dire qu'il a pris en fait le bord de mer, en direction en fait, qui est vers la direction du Yémen et entre la mer Rouge. et donc elle a pu s'enfuir. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Tout de suite est venue le Jaysh, c'est-à-dire l'armée composée en fait de plusieurs guerriers de Quraysh. Akbara ilayhim. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eux, ils vont se présenter. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle va être plutôt la réaction des compagnons par rapport à cela? Et c'est pour ça que le cheikh Yaqoul, à ce moment-là, akhbarum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que maintenant al-Jaysh est en route pour bien sûr nous combattre. قال له المقداد ابن عمر رضي الله عنه والله لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا من دونه معك. وقال ولو خط بنا هذا البحر ولو خط بنا هذا البحر لخبناه ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل انا معك مقاتلون انا معك مقاتلون. Et cette parole là il l'a répété plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, il jure par Allah. Bien sûr, al-Miqdad min al-Ansar, il fait partie des gens de Ménine, il fait partie des Ansar. Et comme vous savez, et comme va l'expliquer ensuite le Cheikh rahimallah, il explique en fait que le pacte qu'il y avait eu, c'est-à-dire le premier pacte, l'Aqaba, qu'il y avait eu entre les Ansar et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il le protège, et qu'il protège ses enfants comme il protège ses enfants et leurs enfants et leurs femmes, mais à l'intérieur de Médine et non à l'extérieur. Donc en fait, l'acte qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar, c'était fi dakhil al-Médina et non walam yashtarit alayhim kharij al-Médina, c'est-à-dire qu'il n'a pas poser comme condition, c'est-à-dire cette condition de protection en dehors de Médine. Et là, bien sûr, le combat va se passer où? En dehors de Médine. Donc, maintenant, c'est au choix maintenant de l'Ansar. Est-ce qu'ils vont sortir avec le prophète sallam pour combattre? Ou est-ce qu'ils vont rester suivant l'acte à l'intérieur de Médine? Parce que la condition n'est pas qu'ils combattent en dehors de Médine. Naam. Et à ce moment-là, donc, Al-Miqdad ibn Amr, il va parler devant, bien sûr, les autres compagnons, devant les autres Ansar. Il va jurer par Allah Azzawajal que si le prophète, là où sirta, c'est-à-dire qu'il parle au prophète, si tu avais en fait, tu te diriges en direction, si tu vas en direction, la barque al-Rimad, ça c'est une barque, il est permis aussi qu'on dise birk, barque al-Rimad, c'est en fait un endroit qui se trouve entre la Mecque et la direction du Yémen, Yaqul la ja'aladna man dunahu ma'ak, c'est-à-dire que nous combattrons. C'est pour ça que dans certaines riwayat on trouve la ja'adna, c'est-à-dire qu'on combattra avec toi. Où que tu iras en fait, nous serons avec toi, nous combattrons avec toi. Même si c'est en dehors de Médine, même si c'est encore jusqu'à cette contrée qui était proche en fait, proche de la Mecque. Il dit même si tu vas jusqu'à là-bas, nous viendrons avec toi et nous combattrons. Et c'est pour ça ensuite qu'il a dit, il lui dit même si tu rentres dans la mer. C'est-à-dire, si tu traverses la mer, nous traverserons la mer avec toi. C'est-à-dire la mer rouge. Si nous traverses... Et ensuite, il a dit, voilà, naqul laka kama qala qawmu Musa li Musa. C'est-à-dire que nous ne te dirons jamais, comme le peuple de Moussa, c'est-à-dire donc Banu Israël, les enfants d'Israël, ont dit à Moïse. Et par rapport à ça, il va faire allusion, bien sûr, Al-Miqdad, il va faire allusion à ce qu'ont fait les enfants d'Israël par rapport à Moussa lorsqu'il leur a demandé de combattre. Il va nous citer le verset, on va revenir sur ce verset. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. Voilà ce qu'ils ont dit à leur prophète lorsque leur prophète leur a dit, nous allons combattre. Voilà ce qu'ils leur ont dit. Ils leur ont dit quoi? Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Subhanallah. Regardez l'adab, regardez le comportement, regardez leur prise de position. Va donc. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ. Allahu musta'an. Va donc, toi et ton Seigneur. Et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Nahnu. Regardez maintenant la différence, la première différence qu'il y a au moment de l'épreuve. Ça, c'est bil khawf, la preuve qu'il y a eu maintenant par la peur. On va voir l'épreuve qu'il y a eu par en fait l'envie, le désir. On va voir ici que c'est la peur, al khawf. Regardez ce qu'ils ont dit à ce moment-là, Banu Israël. Regardez ce qu'est en train de dire un des sahabis. Alors qu'il n'y avait pas la condition de combattre en dehors. Ici, il n'y a pas une condition en fait. Il n'y a pas une condition de combattre en dehors de Médine. Et pourtant. وَلَمَّا عَادَ الْكَلَامُ قَالَ لَهُ سَعْدِ بْنُ مُعَاذَ كَأَنَّكَ تَعْنِينَ مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ. C'est-à-dire qu'au moment, plusieurs fois où il a répété plusieurs fois cette parole, Sa'd ibn Mu'adh, il a senti en fait que pourquoi il parlait comme ça, Al-Miqdar, parler ou pour en fait inciter les autres à venir. Inciter les autres à venir. C'est pour ça qu'il a réagi à ce moment, Sa'd ibn Mu'adh. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, vous, vous êtes concernés par rapport à ça, par rapport à la parole, c'est-à-dire par rapport à l'incitation de Al-Miqdad. À ce moment-là, il va dire une parole, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, une parole qui est connue, Al-Ma'ruf, Al-Ma'thur, une parole connue, une parole héritée. Mada sayakoul, Wallahi, inna laqawmun subur fil harb, suduqun inda al-liqa, Wallahi ma nakran talqa bina adu. حتى ترى منا ما يقر عينك والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم رجل. C'est-à-dire, il va lui dire au prophète, il va jurer que nous sommes un peuple subur, subur, c'est-à-dire un peuple qui avons la patience dans la guerre, qui faisons preuve d'une grande, très grande patience durant la guerre. وصدوقنا عند اللقاء, et que nous sommes sincères au moment de la confrontation. C'est-à-dire qu'on ne part pas à droite ou à gauche, ou on revient sur nos pas, on combat. Soudour, sincère au moment de la confrontation avec l'ennemi. Wallahi, il jure par Allah, ma nakra an talqa bina aduwak hatta tara minna ma yuqirru aynak. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur de rencontrer ton ennemi, jusqu'à que toi tu voyes de tes yeux au prophète, pour que tu voyes de tes yeux, hein, ce qui va justement embellir tes yeux, pour que tu voies ce qui va embellir tes yeux, c'est-à-dire tu vas nous voir combattre à ton autour de toi, et un combat qui sera sincère et rempli de patience et de courage. C'est-à-dire que certaines personnes sont parties parmi les compagnons, mais s'ils avaient su que tu allais bien sûr rencontrer, donc il y a talqa kaidan, s'il savait que tu allais rencontrer bien sûr cette épreuve là, kaid, cette épreuve, alors jamais personne ne serait parti, jamais personne n'aurait délaissé, simplement ils n'ont pas eu science par rapport à cela. Ça, c'est la parole de Sa'd ibn Mu'adh. Et on a vu avant la parole de qui? De Miqdad ibn Amr, donc ils font partie des compagnons, et voilà, donc voilà leur position lorsqu'il arrivait la peur, lorsqu'il arrivait l'épreuve. Et on voit maintenant avec, on peut faire une corrélation avec ce qui est arrivé ou à la prise de position de Banu Israël. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça ensuite qu'il y a Yaqou le Shir. بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف في سورة المائدة في قوله إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ça, c'est سورة المائدة. Et c'est le verset 22. Surat al-Maïda, le verset 22. Il dit, ô Moïse, il y a un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu combattre auprès de Moïse ce peuple-là, le peuple qui se trouvait. Et jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. C'est-à-dire qu'ils sortent de cet endroit-là. Et au moment où ils en sortiront, alors nous y entrerons. C'est-à-dire que nous allons rentrer sans combat. Nous ne voulons pas combattre auprès de toi. Et nous rentrerons dans cet endroit-là, qui est sur le Bayt al-Maqdis. Nous ne rentrerons en fait que si quoi? Que s'ils en sortent. Et ensuite, il va donc rappeler le verset qu'on a cité, Surat al-Maïda, le verset qui est 24, deux versets après, et qui dit donc, qu'il leur fait part, que jamais ils ne combattront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Voilà ce qu'ils ont dit à Moïse, à leur prophète. Allah al-Musta'an. Et voilà ce qu'ont dit les compagnons à leur prophète. Ça, c'est par rapport à al-Khawf. Maintenant, par rapport à l'Ibtila, Biyash Bima Yuhibboun, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils vont aimer. Maintenant, il va nous citer dans un premier temps l'épreuve de Bani Israël, dans cela. Et ça, c'est le Sifi Surat Al-A'raf, et le verset 163. Il raconte Kada ibtulia, ou Kada ibtala Bani Israël bisayd. Ibtala Allah, yani, bisayd. Wa sayd al-samak, al-mafkour fi al-A'raf, al-mushar. المشار له في البقرة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. Ça, c'est verset 163. Et interroge-le au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsqu'on y transgressait le sabbat. Et vous connaissez l'histoire. Ça, c'est aussi Banu Israël. Ça, c'est les enfants d'Israël. Simplement, Allah Azzawajal a voulu les éprouver. Ils faisaient bien sûr Saïd al-Samak, c'est-à-dire ils pêchaient. Il pêchait le poisson. Et Allah Azzawajal, pour les éprouver, leur a interdit de pêcher le samedi, le sabbat. C'est pour ça qu'il y a le sabbat ici, mais c'est As-Sabt, le samedi en fait, le jour de la semaine, As-Sabt. Allah Azzawajal leur a interdit de pêcher ce jour-là le poisson. Et ce jour-là, bien sûr, il y avait beaucoup de poissons qui arrivaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en fait, comme à leur habitude, Al-Hila. C'est-à-dire, ils ont fait une astuce, une feinte, ils ont feinté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jetaient en fait la veille, c'est-à-dire le vendredi soir, par rapport à l'islam, on dit la veille ou la nuit du sept, la nuit du samedi, ils jetaient en fait les filets. Ils jetaient les filets. Et le sept, ils laissaient comme ça, c'est-à-dire le samedi, ils laissaient comme ça, et ensuite le dimanche, ils allaient récupérer ce qu'ils avaient en fait ramassé comme poisson, qui s'était bien sûr pris dans les filets. Et en fait, à partir de là, ils faisaient la pêche, même le samedi. Mais bien sûr, de manière indirecte. Donc ça, c'était une feinte, une astuce de leur part. C'est pour ça qu'il dit Allah Azzawajal, « وَسَلُمْ عَلِي الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَارِبِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ » C'est-à-dire qu'ils ont transgressé, ils ont dépassé les limites ce jour-là, en pêchant. Et comme vous savez, Allah Azzawajal, de par cette épreuve, et qu'ils n'ont pas pu dépasser avec succès, Allah Azzawajal les a transformés. « فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ قِرَادَةً » C'est-à-dire les a transformés en quoi? En singes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La même situation. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal va leur faire une épreuve, va leur donner une épreuve par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce que leur âme, par rapport à ce que leur âme désire. Et c'est aussi Saïd. C'est aussi en fait le fait de chasser. La chasse. Fayaqul wa qad imtahana Allah jalla wa ala ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi umrati al-Hudaybiyah bis-sayd wa hum muhrimun. Fahayya lahum jami'a anwa' as-sayd min al-wuhush wat-tiyar. من كباريا وصغاريا ولم يعتدي رجل منهم ولم يصد في الإحرام كما بينه جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب. Ça c'est surat Al-Ma'ida. Surat Al-Ma'ida, c'est le verset 94. Donc ici Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, quelle a été cette épreuve? Cette épreuve-là, c'était tout simplement lorsqu'ils étaient muhrim, wa hum muhrimun, en état d'ihram, c'est-à-dire qu'ils sont en état de sacralisation. Et c'était durant, bien sûr, l'umrah al-Hudaybiyah, lorsqu'ils sont partis pour faire la umrah. Et donc, à ce moment-là, vu qu'ils sont muhrim, Allah Azza wa Jalla leur a interdit de quoi? De chasser. Et bien sûr, ils sont en voyage, et ils ont faim. Il y a la faim, et donc ils voient autour de quoi? Ils voient autour d'eux ce qu'ils avaient l'habitude de chasser. Ils ont vu des jolis bestiaux, ce qu'ils avaient l'habitude de chasser. Ils ont vu aussi des jolis oiseaux qu'ils avaient l'habitude également de chasser, parmi les grands et parmi les petits. Et à partir de là, il n'y a personne qui a transgressé. C'est-à-dire qu'ils ont suivi l'ordre d'Allah Azzawajal à la lettre. Personne n'a chassé, alors qu'ils étaient en état d'ihram. Et bien sûr, en voyage, ils se dirigeaient en direction de la Mecque. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il a dit ensuite dans son livre. Et donc la traduction du verset qu'on a cité, et c'est le verset 94. C'est le verset 94 dans Fisurat al-Ma'ida, la table servie. Ô les croyants, Allah va certainement nous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Donc là aussi, Ibtila. Comme Bani Israël ont eu un Ibtila par rapport au jour du samedi pour la pêche de poissons, eux, ils ont aussi un Ibtila par rapport à la chasse du gibier durant l'état d'Ihram. Et bien sûr, l'Ihram qui a duré plusieurs jours à l'Ihram, comme vous savez tous, c'est-à-dire l'état de sacralisation. Donc, en rapportant des preuves, et ce sont des preuves en fait qui sont prises de l'histoire, qui ont été vécues, deux épreuves dans le bien, ou deux épreuves par rapport à la peur et par rapport au désir, Bani Israël n'ont pas réussi, et ils ont délaissé l'ordre d'Allah Azzawajal et l'ordre de leur prophète. Les compagnons, eux, ils ont bien sûr réussi, et ils ont suivi leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi Allah Azzawajal de par son ordre, et ils ont suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir de là, mimma la khilafa fi, yaqul shir, wada mimma la khilafa fi, wada mimma yubayin anna qawlahu wa anni faddaltukum ala al-alamin anna al-murad alimu zamanihim. C'est-à-dire que Shir Shankriti Yaqul, qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça, il n'y a pas de divergence, que lorsqu'Allah Azzawajal a favorisé la communauté qui est banouiste, c'est bien sûr, il les a préférés, il les a favorisés par rapport à leur temps, ou les gens de leur temps, uniquement. Alors que Sahaba, eux, ils ont été meilleurs, bien sûr, pour les preuves qu'on a apportées, et qu'ils ont, bien sûr, été la meilleure des communautés. Et ils ont été les meilleurs de la meilleure des communautés. Les Sahaba, les compagnons, ont été les meilleurs de la meilleure des communautés. Ils ont été les meilleurs de cette communauté, la communauté musulmane. Ensuite, le shir, il va passer au verset 61, min surat al-Baqarah, au verset 61. Et encore, là, ici, on va voir que al-Maqsoud biha oula Banu Israël, les enfants d'Israël. Mais le shirk va faire apparaître maintenant une règle au niveau du Coran et une règle au niveau de la langue de façon générale. Yaqul Allah Azza wa Jal, Buribat alayhim al-dhillah, wal maskanatu waba'u bi ghadabin min Allah, dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghayri al-haq, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surat al-Baqarah, et qui est le verset 61. Et donc, l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah, cela parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Yaqul al-Shi'a, rahimullah, on a Shi'a ibn Mursi. Qawluhu bi ghayri al-haq. Wa wasfun lil-qatli kashifun. La mafhouma lah. إن من شأن قتل النبي أن يكون بغير حق ولا يتصور أن يقتل نبي بحق ومثل هذه الآية قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه سورة آل عمران الآية 21. À la Koulihan, on va revenir maintenant à l'explication que nous donne le shir. Maintenant, si une personne lit le Coran, que ce soit en arabe ou qu'on revienne aussi à la traduction. On revient à la traduction, ou avant, au verset en langue arabe. Yaqul Allah Azza wa Jal, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haq. La suivante, la traduction du sens est la suivante, et qu'il tuait sans droit les prophètes. La question maintenant qu'on va poser pour comprendre en fait ce que nous dit le shir, la question, est-ce qu'il est possible que l'on tue un prophète avec droit? C'est ça la question qu'on pose. Hal yumkin an naqtula nabiyan bihaqqin? Hal hadha yumkin? Al ahad minkum yatasawwar an yuqtal nabi bihaqq? C'est-à-dire que est-ce qu'il est possible que l'on tue un prophète avec droit? Ici il est dit et qu'il tuait sans droit les prophètes. Donc ici sans droit, c'est une précision qui est faite. C'est une précision. Ici, yaqul wasf. Yaqul le shir wa wasfun. C'est-à-dire une caractéristique. C'est-à-dire qu'on va caractériser quoi ici? En l'occurrence, al-fi'l. C'est-à-dire l'action de ces gens-là. Ceux qui tuaient les prophètes. Bireil il-haq. Yaqul kashif. C'est-à-dire kashif qui va mettre en évidence. Allah Azzawajal met en évidence que c'est bien sûr sans droit. Que le fait que l'on tue un prophète, c'est sans droit. La mafoumala. Qu'est-ce que ça veut dire, la mafoumala? C'est-à-dire, comme on a expliqué, la mafoumala. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre, wa hunak mafoum al-mukhalafa. C'est-à-dire comprendre le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre qu'il y a en fait un prophète qui serait tué avec droit. Donc c'est pour ça que yaqul al-shir, la mafoumala. Il n'y a pas d'explication par rapport à cela, ou il n'y a pas de compréhension, c'est-à-dire comprendre. Lorsqu'on dit il n'y a pas de compréhension par rapport à cela, c'est-à-dire comprendre ce qui serait le contraire de cette phrase-là. Tuer des prophètes avec droit. Bien sûr, ça, on ne peut le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a pour le shir la mafoumala. Et ensuite, il explique ce qu'on vient d'expliquer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle wasfun kashif. La mafoumala. Wasfun kashifun la mafoumala. Il va donner d'autres exemples encore où ce procédé revient dans le Coran. Et donc, ce wasf, cette caractéristique qui vient caractériser, ou cet attribut qui vient caractériser ici l'acte, est bien sûr pour mettre en évidence. C'est pour ça que Naqul Kashif, il vient mettre en évidence que ce qu'ils ont fait, bien sûr, c'est sans droit. C'est une évidence que c'est sans droit. Un autre verset qu'il a cité, le shir, et qui a en fait la même signification. C'est-à-dire qu'il est repris à l'intérieur du verset, de Ali Imran, et le verset 21, et dedans il est cité وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطَ مِنَ النَّاسِ. Et donc, il est repris encore, c'est-à-dire aussi sans droit. Sans droit, ils tuent les prophètes, ils ont tué les prophètes sans droit. Donc, le même procédé. Un autre verset qui nous cite le shir, et c'est aussi dans le surat Ali Imran, c'est le verset 112. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وقوله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. Donc tout ça, tous ces versets qu'il a cités, le dernier c'est sourate An-Nisa et c'est le verset 155, sourate les femmes, il revient en fait toujours la même caractéristique ou le même attribut qui vient caractériser quoi Al-Fi'l, qui vient caractériser l'acte de ces gens-là et qui est le fait de tuer l'assassinat des prophètes. Et à chaque fois, biré il haq, c'est-à-dire sans droit. Et donc, on ne comprend pas à partir de là qu'il pourrait y avoir un meurtre d'un prophète, d'un envoyé qui serait fait par droit, avec justice. Ça, c'est pas possible. Donc, on comprend le terme la mafoumala. Il va maintenant, donc ça, c'était toujours par rapport à la même signification. Il va nous donner maintenant une autre, c'est-à-dire une autre, ce qu'on appelle minasifat al-kashifa. C'est-à-dire qu'il va nous donner des autres caractéristiques qui ont la particularité de mettre en évidence quelque chose. Lorsqu'on dit quelque chose, ça va être bien sûr de façon générale. Wa yaqul ash-shir wa min as-sifat al-kashifa qawluhu wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih. Ça fait surat al-mu'minun et c'est le verset 117. Surat al-mu'minun, le verset 117. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente, la preuve évidente entre parenthèses de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Taïb, ici, yaqul ash-shaykh, ay inna min sha'ni man yad'u ghayra Allah annahu la burhana lahu bidhalik wa la yatasawwar an yad'u ghayra Allah wa yakunu lahu bi burhan. وقولوا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. Le premier exemple qu'il nous donne, donc, c'est le verset qu'on a cité, 117. C'est le verset 117. Il nous dit le shir. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul la burhana lahu bih, sans avoir la preuve évidente, sans avoir la preuve évidente, aura à rendre des comptes. C'est-à-dire sans avoir la preuve évidente de ce qu'il a fait, de l'acte qu'il a fait. L'acte, c'est quoi? C'est un shirk. C'est un shirk. Pourquoi? Parce que celui qui invoque un autre qu'Allah Azza wa Jal, et l'invocation fait partie de l'adoration, ad-du'a min al-ibada, naw'un min al-ibada, tayyib, ça fait partie de l'adoration. Donc celui qui fait une adoration pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, il est tombé bien sûr dans le shirk, il est tombé dans l'associationnisme, il est tombé dans le polythéisme, ash-shirku billah. Donc à partir de là, yaqul Allah Azza wa Jal, wa ma yad'u ma'allahi ilahan akhar, et qui bien sûr invoque un autre que lui, c'est-à-dire une autre divinité qu'Allah Azza wa Jal. La burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbihi. C'est-à-dire que celui qui va adorer ou celui qui va invoquer un autre qu'Allah Azza wa Jal et qu'il n'a pas de preuve par rapport à ce qu'il a fait, alors bien sûr fa innama hisabu 'inda rabbihi. Son compte sera auprès d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que maintenant, lorsqu'on voit que c'est as-sifatul kashifa, c'est-à-dire min as-sifatil kashifa, c'est-à-dire wasfun kashif maratan ukhra, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qui vient mettre en évidence que la personne qui commet un acte de polythéisme, qui invoque en dehors d'Allah Azza wa Jal un autre que lui, il n'a pas de preuve. La burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbi. La mafhumala. Qu'est-ce que ça veut dire la mafhumala ici? Si on applique cette phrase qui nous a dit le shir, ça veut dire tout simplement ce que maintenant on s'imagine qu'ils sont en possession d'une preuve par rapport à l'acte qu'il a fait, et l'acte ici c'est l'associationnisme. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Bien sûr que non. Donc Allah Azza wa Jal, tout simplement, lorsqu'il dit la burhana lahu bi, wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi, tout simplement il met en évidence Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui adore en dehors de lui, Arfouan, que celui qui adore en dehors de lui un autre que lui, qui invoque en dehors de lui un autre que lui, il ne peut avoir de preuve. Donc voilà, et ça il faut bien comprendre par rapport à ce verset. L'autre verset qui nous a cité et qui est dans une autre signification, c'est le verset numéro 44 min surat al-Maïda, la table servie. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ أَسْلَمُوا. Ça c'est وصف الكاشف. وصف كاشف. الَّذِينَ أَسْلَمُوا. Même procédé. Est-ce qu'il est possible, donc la traduction du verset, nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah. Est-ce qu'on s'imagine maintenant qu'il y a des prophètes qui ne sont pas soumis à Allah? C'est-à-dire, il faut maintenant réfléchir inversement pour comprendre qu'est-ce que l'on veut dire par le terme wasfun kashif. An-nabiyyun alladhina aslamu. Est-ce qu'il est possible qu'on trouve un prophète qui ne sait pas yani yaqul al-shaykh ma'na aslamu istaslamu wa inqadu lillah wa inqadu lillah, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis à Allah azza wa jalla, qu'ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont humiliés devant lui, qu'ils ont soumis leur âme, leur corps, leur être tout entier devant Allah azza wa jalla, devant ses ordres et devant ce qu'Allah azza wa jalla a voulu d'eux. Alladhina aslam. Donc ici on voit wasfun kashif, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla il met en évidence l'état de ces gens-là, ou l'attribut de ces gens-là qui sont les prophètes. Donc c'est une mise en évidence. Il fait apparaître de façon claire et nette cet attribut devant ceux qui vont lire le Coran. Alladhina aslamu. Et donc bien sûr on ne peut s'imaginer que l'on va comprendre le contraire, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y aurait des prophètes qui ne sont pas soumis réellement à Allah Azza wa Jalla. Taïb. Et donc il rapporte bien sûr d'autres versets le shir en prouvant cela, c'est-à-dire en prouvant que ma'na aslamu istaslamu inqadu lillah. Donc le terme aslamu, il va maintenant revenir sur l'explication du terme aslamu. Comme a dit Allah Azza wa Jalla an Ibrahim, il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ça c'est surat al-Baqarah, c'est le verset 131. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Wa qawlu an Ibrahim, عن إبراهيم أو إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 128. Notre Seigneur fait de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. C'est pour ça que معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. Al-wasf nou'an. Maintenant, on a vu en fait que al-wasf, c'est-à-dire la caractéristique, on a vu une des catégories. Le cheikh dit qu'il y en a deux catégories. Dans le Coran, il y a deux catégories. Donc, il y a al-wasf nou'an. Kashifun wa mukhassisun. Kashifun wa mukhassisun. Wa ma taqaddama min al-ayati min amthilati al-wasf al-kashif. Min amthilati al-wasf al-kashif. وأما الوصف المخصص فله مفهوم. طيب انتبهوا. On va comprendre maintenant un peu mieux beaucoup de versets du Coran en comprenant cette règle-là. Il nous dit le shir donc al-wasf nou'an. Il nous dit que tout ce qu'on a vu auparavant, ça rentre dans al-wasf al-wasfun kashif, al-wasf al-kashif. Ça c'est ce qu'on a vu auparavant, al-wasf al-kashif. Et comment on l'a traduit? Il nous dit qu'il y a maintenant une autre caractéristique qui s'appelle al-wasf al-mukhassis. Al-wasf al-mukhassis. Yani mukhassis yukhassis. C'est-à-dire wasfun mukhassis. C'est-à-dire que c'est une particularité qui vient spécifier. Qui va venir spécifier quelque chose. On va voir maintenant l'exemple. On va donner des exemples par rapport au Coran. Exemple que le chien va nous citer. Et on va comprendre un peu mieux ici la différence qu'il y aura entre les deux. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le terme mukhassis qui veut dire au niveau littéral qui spécifie. Yaqul Allah Azza wa Jal. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Ça c'est surat An-Nisa et le verset 92. Surat An-Nisa et le verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Celui qui va donc tuer un croyant par erreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donc affranchir un esclave. Ici, un esclave croyant. Un esclave croyant. Donc ici, on a un wasf de l'esclave. C'est-à-dire, on a une caractéristique de l'esclave, un attribut de l'esclave. Quel est cet esclave-là? Croyant. Il est croyant. Taïb, comme dans le verset. Comme dans le verset. Fatahriru raqabatin mu'mina. Raqabatin mu'mina. Hada mu'mina wasf. Wasf li raqaba. c'est-à-dire c'est l'attribut, la caractéristique de quoi? De l'esclave, que devra affranchir la personne qui a tué un croyant par erreur. يقول الشيخ فإن وصف رقبة بالمؤمنة مفهومه أنه لا يجزي يعتاق الرقبة الكافرة وقد جمع الوصفين الانتين. Le cheikh nous dit tout simplement maintenant que on a un wasf ici, mais que ce wasf mukhassis, c'est-à-dire qu'il vient spécifier ce qui est caractérisé. Ici c'est al-raqaba, c'est l'esclave. Et il nous dit le cheikh tout simplement que cet attribut, que cette caractéristique, elle a une compréhension. Elle a une compréhension. Lorsqu'il nous dit mafhoumou, c'est-à-dire qu'elle a une compréhension. Et c'est ce qui va faire la différence en fait avec l'wasf al-kashif. La mafhoumala, c'est-à-dire l'wasf al-kashif, la mafhoumala. Amma l'wasf al-mukhassis, falaou mafhoum. C'est-à-dire qu'elle a une compréhension, qu'on va comprendre. Et qu'est-ce qu'on va comprendre, bien sûr, ici, mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-mukhalafa, c'est-à-dire qu'on va comprendre l'inverse. C'est-à-dire tout simplement que dans ici le verset, lorsqu'on va comprendre qu'Allah Azzawajal nous indique, nous informe et nous ordonne d'affranchir un esclave qui est croyant, ça veut dire qu'il ne nous est pas permis d'affranchir un esclave qui n'est pas croyant. Et que cela n'est pas compté. Si par exemple on affranchit une personne ou un esclave qui n'est pas croyant, c'est-à-dire kafir, un esclave qui est non croyant, qui est mécréant, alors cela ne sera pas compté comme l'affranchissement que l'on doit faire par rapport à cette question-là. La question d'avoir tué un croyant avec erreur, par erreur. La yajzi, yaqul al-shaykh, yartaqu al-raqabati al-kafir. Taïb. Donc maintenant on comprend la différence qu'il y a entre al-kashif et al-mukhassis. Il va nous donner maintenant un exemple, shaykh, où l'on trouve dans un verset les deux caractéristiques, celle qui est dit kashif et celle qui est dit mukhassis. Donc bien sûr dans le verset précédent on voit maintenant marna yukhassis, c'est-à-dire on a al-wasf yukhassis nou' al-raqaba, c'est-à-dire que l'attribut va spécifier la catégorie de l'esclave et la catégorie ici qui va être de la catégorie des croyants. Donc on voit maintenant, on comprend pourquoi les savants ont employé ce terme-là, mukhassis. Maintenant le cheikh va nous rapporter un verset, on va trouver les deux caractéristiques, celle qui est dit kashif et celle qui est dit mukhassis, dans le même verset. Yaqul le cheikh, qala Allah azza wa jal, وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Ça c'est verset 23 de sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa. فَإِنَّ مَفْهُمْ قَوْلِهِ أَلَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ غَيْرَ الْمَدْخُولُ بِهَا لَا تَحْرُمْ بِنْتُهَا كَمَا هُوَ نَصُّ الْجُمْلَةِ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَقَوْلُهُ أَلَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَسْفٌ كَاشِفٌ La mafhumala. Ou la traduction du verset, ou du sens du verset est la suivante. Waraba ibukum. Waraba ibukum. Le terme waraba ibukum. Le terme raba ibukum, ça c'est un terme qui vient au pluriel. Et son singulier c'est arabiba. Ou rabibatun. Son singulier c'est rabibatun. Rabibatun. Donc écrivez-le ce terme. Rabibatun. Et son pluriel c'est, comme dans le verset, Rabaib, Ar-Rabaib. Ar-Rabaib, c'est le pluriel donc de Ar-Rabiba. Et qu'est-ce que veut dire Ar-Rabiba? C'est en fait la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. C'est la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. C'est pour ça qu'ils traduisent en fait belle-fille. Belle-fille sous vos tutelles et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Le verset en français, pour tout le monde le voit. Belle-fille sous votre tutelle, et à nouveau belle-fille sous votre tutelle, est issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Donc on a dit Ar-Rabiba, donc c'est la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. Taïb, bien sûr, la fille que cette femme a eue avec un autre homme. Qu'est-ce que veut dire le verset? Il veut dire tout simplement, ça c'est un hukm au niveau de l'islam, c'est un statut, au niveau de l'islam, une loi, que la personne qui se marie avec une femme qui a une fille, alors cette fille-là deviendra interdite à cet homme, mais à une condition. La condition, c'est qu'il a eu en fait un rapport avec elle, c'est-à-dire qu'il a consommé son mariage, qu'il y a eu un rapport entre l'homme et cette femme qui s'est mariée. C'est ça la condition. Si maintenant un homme se marie avec une femme, cette femme-là avait déjà une fille, s'il se marie tout simplement, qu'est-ce qu'on comprend ici? S'il se marie tout simplement, yani mujarrad al-aqd, s'il se marie tout simplement, et ensuite, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas, en fait, il y a le fasr, yani fasr al-aqd, c'est-à-dire qu'on annule l'acte et l'homme n'a pas touché la femme, il n'a pas eu de rapport avec la femme. Qu'est-ce qui se passe? Donc à ce moment-là, la personne ou l'homme a le droit de se marier avec, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas mahram, elle ne devient pas interdite à lui, il a le droit de se marier. Par contre, si cet homme-là a eu un rapport sexuel et ensuite ils ont divorcé, alors du fait qu'il a eu un rapport sexuel, du fait qu'il a consommé son âge avec cette femme, cette fille-là lui deviendra interdite tout le temps. Elle lui deviendra interdite tout le temps, c'est-à-dire sera un mahram pour elle. Il pourra s'asseoir avec elle, même si elle, quand elle sera grande, il pourra s'asseoir avec elle, il pourra voyager avec elle, etc. C'est un mahram. Cet homme-là devient un mahram. Donc, il faut bien, pour bien qu'on comprenne le verset d'abord et ensuite qu'on vous explique quelle est l'wasf al-kashif ou l'wasf al-mukhassas. Donc, c'est ici, c'est la compréhension que l'on prend du hadith. Et ça, entre parenthèses, c'est la différence qu'il y a en fait avec les mères. Et il y a une règle en fait par rapport à ça. Naqul al-aqdu ala al-banat yuharrim al-ummahat wa al-dukhul bil-ummahat yuharrim al-banat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à la fille, si par exemple maintenant une personne, elle aqdu ala al-banat, si maintenant une personne se marie avec une femme et cette femme-là elle a une mère, tayyib, mujarrad al-aqd, c'est-à-dire simplement il y a eu un acte, même s'il n'a pas eu de rapport avec la fille ou quoi que ce soit, il n'a pas eu de rapport avec cette fille, simplement le fait qu'il y ait eu un acte, automatiquement la mère devient interdite, même s'il n'y a pas eu de rapport, contrairement avec la mère par rapport à sa fille. Donc on voit ici la différence. Ça, c'est un hukm à savoir, c'est une faïda qu'on donne. C'est-à-dire que l'homme maintenant se marie avec une fille, simplement le fait qu'il y ait eu un acte entre eux, lorsque je dis l'acte, c'est bien sûr le contrat de mariage. L'aqdou, c'est le contrat de mariage. Lorsqu'il y a eu simplement un contrat de mariage avec l'homme et la femme, à partir de là, la mère devient interdite à cet homme-là de façon continuelle, tout le temps. Et même s'il n'y a pas eu de rapport entre l'homme et la fille Tayyib, contrairement maintenant par rapport à la mère. Donc si la mère, elle acte, c'est le contrat de mariage avec l'homme, simplement le contrat de mariage, alors à partir de là, s'il n'y a pas eu de rapport et il y a eu un divorce, la fille deviendra halal, c'est-à-dire elle deviendra, je veux dire, licite pour cette personne, elle peut se marier avec elle. Par contre, s'il y a eu un rapport, alors non. Donc je crois que c'est compris. Et ensuite, فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Si vous n'avez pas consommé le mariage avec cette femme-là, alors cette fille-là vous sera permise. La junaha alaykum, il n'y a pas de mal, bien sûr, que vous mariez avec elle. Donc on comprend tout simplement allati dakhaltum bihinna, on comprend le contraire, c'est-à-dire allati dakhaltum bihinna, c'est-à-dire que vous avez eu un rapport, vous avez comment consommé avec le mariage avec elle. Le contraire de cela, c'est celle que vous n'avez pas consommé le mariage. Donc pour celle que vous avez consommé le mariage, la fille est interdite. Pour celle que vous n'avez pas consommé le mariage, la fille est licite. الوصف المخصص c'est-à-dire الوصف الذي له مفهوم الوصف الذي له مفهوم هنا له مفهوم مفهوم المخالفة طيب له مفهوم donc c'est هناك الوصف المخصص qui spécifie en fait quelle est cette fille avec laquelle, ou c'est quelle est cette belle fille avec laquelle on ne pourra avoir en fait de mariage dans le futur, à qui deviendra interdite, c'est celle avec laquelle ou avec qui on a eu un rapport avec sa mère, on a eu consommé le mariage avec sa mère, طيب. Non, donc c'est le wasf al-mukhassis. Maintenant, le wasf al-kashif, c'est la parole suivante, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans ce verset. Allati fi hujurikum. Allati fi hujurikum. C'est-à-dire que allati fi hujurikum, celles qui sont en fait qui sont sous votre tutelle, ou alors qu'on peut dire qui sont aussi dans votre foyer, qui sont en fait avec vous, qui vivent avec vous. Donc on voit bien sûr, il se peut que par rapport à un homme qui se marie avec une femme, sa fille vive par exemple avec son père et loin, c'est-à-dire qu'il ne verra pas cette fille-là et jamais elle sera sous sa tutelle et jamais en fait elle vivra avec lui sous le foyer. Taïd. Et l'autre catégorie de filles, c'est la fille qui va vivre en fait avec sa mère et qui va être présente donc dans le foyer. Donc l'homme sera avec la fille en fait de sa femme. Donc il vit avec elle, il sera bien sous sa tutelle, il va avoir une responsabilité par rapport à cette fille-là. Donc maintenant, lorsqu'on dit wasfu kashif, ça veut dire que la mafoum ala. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est un hukm. C'est un hukm. Ça veut dire que la fille qui, comme on l'a dit, qui se trouve, qui ne vit pas sous la tutelle de la personne et qui vit par exemple avec son père ou qui est dans un autre pays ou qui est loin d'elle, c'est-à-dire qui n'est pas sous sa tutelle, qui ne vit pas avec elle, alors c'est la même chose que la fille qui va vivre en fait avec la mère, qui va vivre en fait avec la mère, qui va vivre en fait sous la tutelle de l'homme. Ça sera pareil pour les deux. Donc le fait qu'on dit fi hujurikum, ça ne veut pas dire que celle qui n'est pas allati laysat fi hujurikum annaha la tahrum, la bal tahrum, bal tahrum. C'est-à-dire donc elle devient illicite après qu'il y a la consommation de mariage, elle devient illicite comme la fille qui aurait vécu dans le foyer, qui aurait vécu sous la tutelle de l'homme, elle et elle. Donc ça c'est ce qu'on appelle wasfun kashif wal akhar wasfun mukhassis. Et c'est pour ça que le cheikh vient appuyer wa yadullu dhalika li dhalika qulu sallallahu alayhi wa sallam li zawjatihim fala ibna alayya بناتكن ولا أخواتكن. رواه الإمام البخاري ومسلم. فيدخل تحت قول بناتكم كل بنت لزوجة فيشمل بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها. Donc le cheikh tout simplement il vient appuyer ce qu'il dit par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ses femmes: ne me présentez pas vos filles wala khawatukun et vos sœurs. Ne me présentez pas vos filles et vos sœurs. C'est-à-dire pour le mariage. C'est-à-dire que, ce qu'on comprend par là, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles lui sont interdites. Donc chaque homme qui se marie avec une femme, et donc qui a consommé le mariage, donc dans le cas ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec ses femmes, alors vos filles nous sont interdites. Et également, bien sûr, comme c'est connu, les sœurs. Les sœurs aussi sont interdites. Donc ici, âme, c'est-à-dire que c'est général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé celle qui était ou qui a vécu sous ma tutelle ou celle qui ne va pas vivre sous ma tutelle. Donc en fait, ça c'est général. Donc d'après cette généralité qui se trouve dans le hadith, c'est une preuve donc que la fille, qu'elle soit sous la tutelle, qui vit avec l'homme ou qu'elle ne vit pas avec l'homme, si l'homme il a eu un rapport avec la femme, il a consommé son mariage, elle lui sera interdite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.